samedi 19 octobre, je me suis rendue à la scène Michelet à Nantes pour interviewer le groupe OnLap, un groupe d'une chaleur extraordinaire que je vous propose de découvrir tout de suite. Votre groupe existe depuis 13 ans.
C'est
ouais.
Exact.
À peu près, ouais.
Ouais.
Je crois qu'on a commencé. Ah non, bah, j'allais dire 2009, du coup ça fait 10 ans, c'est pas ça.
Non, t'as commencé avant, peut-être
2006.
Ouais.
En vrai, sûrement.
Bah avant, avec Anyway.
En fait, on a commencé il y a très longtemps avec un autre groupe qui s'appelait Anyway. Et en fait, ça a évolué. Et il y a un moment où on a eu envie de faire un premier album. Et là, il y a eu une rupture, on s'est dit, bah faut changer de nom parce que le groupe Anyway, en fait, il y a déjà trois ou. Enfin, il y avait plusieurs groupes Anyway qui existaient déjà. Donc c'était complexe de se développer en comprenant le nom d'un groupe qui existait déjà. Sachant en plus que c'était des styles un peu différents, c'était des vieux groupes et autres. Donc on s'est dit on change de nom. On a fait une petite liste, on a trouvé plein de noms qui nous plaisaient. Et on s'est posé dans une grande enseigne qui vend des frites et des hamburgers. Dehors, pour pas citer de nom à la radio. Et on a décidé comme ça en se disant qu'on allait s'appeler OnLap parce que ça nous plaisait bien, c'était punchy. Ça se disait quasiment pareil dans toutes les langues, en français et anglais. Et il n'y avait personne qui s'appelait OnLap, donc on s'est dit banco, c'est parti.
Et du coup, il n'y a pas de signification en fait à OnLap.
En fait, OnLap, c'est un, ça veut dire quelque chose en géologie.
Mais c'est tellement chiant à expliquer et à comprendre qu'en fait, on dit juste comment on appelle le nom.
Ça n'a aucun rapport avec le groupe, ça n'a aucun rapport avec la signification. Il n'y a pas de signification liée au nom du groupe ou autre. Voilà.
Vous êtes amis du collège, il me semble.
C'est ça, ouais, lycée. Alors, moi, lycée, Franck et Flo se connaissent depuis le collège, si je dis pas de bêtises. Ouais, même ça. Avant, non? Non, si, non?
Non, c'est non,
collège.
6ème.
Ouais, voilà. Mais sinon, effectivement, Franck, Flo et moi, c'était depuis le lycée.
D'accord, et du coup, comment vous avez voulu l'idée de faire un groupe?
Alors moi pour ma part ils existaient déjà, je les ai connus au lycée et je fais ah c'est cool, moi je faisais un peu de guitare etc. Et puis voilà c'était un peu le groupe du lycée, ah tu connais des gens, bah ouais bah, viens jouer avec nous etc. Et puis bah, de fil en aiguille on a continué à jouer ensemble et puis voilà quoi.
Vous deux vous êtes arrivés plus tard c'est ça?
Effectivement, moi je suis arrivé en 2009 je crois.
Il y a déjà plus de... Ouais.
En tout cas,
carnet
de semi 2009.
Voilà 2009. C'était suite à un email hein, que Flo m'avait envoyé, qui a réussi à trouver au fin fond d'Internet et de YouTube des vidéos que je postais dans ma chambre ou dans mon petit appartement de la région orléanaise. Et il m'a proposé justement de venir faire une audition pour prendre le rôle de chanteur, puisque avant, dans la première version de OnLap, c'était lui le chanteur. Et je pense que ça fonctionnait, puisque 10 ans après, ben voilà, je suis encore là. Donc,
Guillaume, en deux mots, on l'a recruté sur YouTube. Voilà. On l'a recruté sur YouTube.
Ça fonctionne bien, YouTube.
Ouais. Ça fonctionne très bien. Il était avec sa petite gratte acoustique, ouais. Avec son bonnet. et franchement, la première fois que j'ai vu la vidéo, je me suis dit ouais. On en avait vu plein, des gars et tout, et Flo a fait « mais si, je suis sûr, c'est trop bien et tout ». Et puis il est venu, parce que t'habitais à Orléans et on repétait ouais. Dans le sud de la région parisienne.
Ouais.
Une heure d'Orléans, il y a 50 minutes, un truc comme ça. Mmh. Et voilà, ça a matché quoi.
Et du coup, Andrea,
et moi, donc moi je suis arrivé, en fait à la batterie c'était mon meilleur ami, à la base dans OnLap, qui était fondateur avec du groupe. Et pour des raisons personnelles, il a dû partir par rapport à son boulot, par rapport à plein de choses. Et puis moi, c'est des mecs que je connais depuis que j'ai 17 ans en fait. Donc je les connais, je les ai suivis, je suis allé à leur concert plus d'une fois, et puis on était amis quoi. Et puis après, on m'a proposé, puis j'ai pas hésité longtemps pour intégrer le groupe. C'est une histoire d'amitié finalement, depuis de longues années. Donc,
travail en dehors de la musique.
Oui, c'est ça.
Comment vous arrivez à cumuler les deux?
Bon, ça se passe assez bien généralement, mais non. Bah après, c'est vrai qu'on bosse plus tous à la maison et on fait généralement une grosse répète par mois. voilà, qui nous prend près toute la journée, mais voilà, au moins on synchronise comme ça. Mais
la seule façon de cumuler deux fois être prof.
Voilà.
Voilà, y en a c'est la seule solution.
Il y en a trois qui galèrent,
c'est bon.
Il y en a trois qui galèrent, il y en a deux, ça va.
Voilà. C'est vrai que la moitié du groupe est prof.
Ouais.
Bah non, un peu moins, un petit peu moins.
Le cinquième.
Ouais, c'est ça. Ouais, cinquième.
Mais c'est pas moi le prof.
Ni moi.
Je crois que je vais pouvoir faire mes remplacements.
Et du coup, vous êtes un groupe de rock alternatif français, du coup, que peu de gens ne savent vraiment, en fait. Et du coup, vous êtes aux influences américaines. Vous pouvez citer quelques groupes qui vous ont influencé?
Il y en a un paquet. Hein. On est tous plus ou moins... On avait du Linkin Park, on avait du Seether.
C'est une référence commune, je pense, ouais. On peut parler un peu de Linkin Park. Il y avait un peu Nickelback.
Seether, Nickelback, voilà. Ouais, tous ces trucs. Un petit peu Breaking Benjamin, Papa Roach, voilà, tout ça.
Après, je pense que aussi la force d'Unlab, c'est justement le fait qu'on aime la musique dans son ensemble et qu'on écoute énormément de choses différentes.
Et oui, il y en a même qui écoutent... bah bon, on va pas dire des certains, voilà. Et pas du tout, mais presque.
Et du coup, c'est ce qui construit l'identité du groupe, quoi. On a tous nos influences musicales qui interviennent.
T'as des grosses influences Stained, Bush, tout ce qui est un peu gratte acoustique, grosse voix.
J'aime beaucoup tout ce qui est acoustique,
post-grunge et tout. Ouais. Bon, après, c'est vrai que j'écoute beaucoup de blues aussi. On a des horizons un peu musicaux différents et assez variés.
Mais du coup, vous avez quand même des groupes communs, en fait.
Ouais, bah voilà ce qu'on a dit, généralement Linkin Park, Papa Roach, Breaking Benjamin, du Seether, voilà, on a
plein de
Deftones. On a des références communes. Après, ça veut pas forcément dire qu'on les intègre dans nos influences sur les morceaux. Mais au moins, c'est des choses qui nous rassemblent un petit peu.
Suite à un post que j'ai lu qui dit « Leur musique me permet de continuer d'avancer quand ça va pas », ça vous fait quoi quand vous entendez ces paroles-là?
Ah bah, ça fait carrément plaisir, quoi. C'est super gratifiant. Et, en fait, je vais plutôt parler pour ma part, mais je pense qu'on a tous eu dans notre vie un jour, un moment où on n'allait pas bien, et on a tous eu une petite chanson, je pense, qui un jour nous a dit « Ah, cette chanson, elle me réconforte », ou « Cette chanson, voilà, elle me donne de la force », ou j'en sais rien. Et quand ça arrive avec nos chansons, bah, du coup, je pense qu'on peut quand même se projeter et voir l'importance que ça a pour certaines personnes. Et pour le coup, bah, je trouve ça... enrichissant, et enfin, surtout au début, on a un peu du mal à croire, on se dit merde, on fait cet effet là quand même, bon bah c'est cool, quoi, c'est cool.
Mais c'est le pour rebondir sur ce que dit Pierre, en fait c'est le plus beau cadeau qu'on puisse nous faire, parce qu'au départ
c'est clair.
On est là en train de faire de la musique dans notre chambre qui nous plaît, et on n'a pas de prétention à révolutionner la musique, on a vraiment aucune prétention, on fait juste quelque chose qui nous plaît. Et on essaie de le faire le mieux possible, c'est aussi pour ça qu'on sort plutôt peu de titres, on fait essayer de faire de la qualité. Et on nous dit qu'en fait, moi je parle pas mal sur les réseaux sociaux avec les personnes, et il y a des gens qui m'ont dit « tu m'as sauvé ma vie, quand j'étais en déprime, j'écoute un lap », et en fait pour nous c'est un cadeau. On est à 100 000 lieues de s'imaginer qu'on peut remonter le moral de personnes juste en faisant de la musique dans notre chambre. Alors ça, c'est génial. Ah ouais, mais c'est super. Et moi, je leur dis de continuer de se battre contre leur dépression. Enfin, voilà, il y a certains échanges qui sont assez émouvants. Et donc ouais, c'est un peu impressionnant parce qu'on n'est pas formé à ça.
Oui, c'est vrai, ouais.
C'est comme un joueur de foot.
On s'en rend pas compte, en fait.
C'est comme un joueur de foot qui est gamin, qui est en train de jouer au foot chez lui parce que ça lui plaît. Et après, il y a des gamins qui vont dire « Ah, tu m'as inspiré, j'ai fait tout ça grâce à toi » et autres.
Ouais.
Alors, en fait, on fait au départ pour nous, mais ça plaît aux gens. Enfin,
comme on disait avant aussi, c'est qu'on a tous nos boulots à côté. Donc nous, on reste encore un peu sur le côté un peu loisir, le côté on fait de la musique le week-end. Alors, on essaie de bien le faire, etc. Mais voilà, pour nous, ça reste encore... c'est pas notre métier, et le fait que quelqu'un donne autant d'importance à ça, bah, on n'est pas vraiment encore connecté sur toute cette reconnaissance, quoi. Je veux pas.
Yeah.
quand vous composez vos musiques, à travers celles-ci, vous essayez de transmettre des choses ou...
De plus en plus, ouais. Aujourd'hui, voilà, les chansons sont proposées de façon à faire passer un message sans que ce soit moralisateur ou très très profond. Voilà, je pense que c'est quand même important que la chanson, quelle qu'elle soit, faut qu'elle ait un minimum de sens. Et je pense que c'est comme ça aussi que ça touche le plus de personnes possible. Hein. Si on a un message clair et qui parle à beaucoup de gens, bah voilà, c'est... Tant mieux pour nous, on a tout gagné quoi.
Votre musique, alors mon anglais est pas très bien, The Awakening a été vu des millions de fois et écouté dans plus de 80 pays, du coup vous sentez quoi
moi je vais répondre franchement, j'arrive pas du tout à réaliser ces chiffres, voilà, ils existent, ils sont là, c'est certainement très vrai. Mais voilà, on est un groupe français, on a été écouté dans plein de pays différents, c'est bien, mais en fait, le seul moment où on est vraiment connecté, en tout cas, moi je parle pour moi, avec les gens qui nous écoutent, c'est pendant les concerts. Donc c'est à cette occasion-là qu'on rencontre en vrai les gens qui nous suivent. Et après, voilà, si demain on est amené, grâce à ces écoutes, à l'opportunité que nous offre Internet d'aller jouer ailleurs et de rencontrer ces gens-là, bah franchement avec plaisir quoi.
C'est vrai qu'en ce moment il y a un effet boule de neige naturel qui se passe sur Internet. Il y a des gens qui nous écoutent partout, mais qui est 1000 ou 10 000 personnes, sachant que nous on voit pas vraiment la différence. Tandis que là, faire une scène Michelet à Nantes, qui est entre guillemets pas chez nous, même si on a des connaissances ici, on connaît un peu de monde, c'est génial de la remplir et que ça soit complet. C'est là où on voit vraiment, pour dire ce que dit Guillaume, c'est là où on voit les gens et c'est là aussi où on fait face à l'émotion de toutes les personnes. Parce que quand on a joué à Paris, il y a des gens qui venaient d'Allemagne, il y a des gens qui venaient de Lille. Là, ce soir, il y a des gens qui vont venir d'Angers, il y a des gens qui vont venir de Bretagne, il y a des gens qui vont venir de Paris.
Orléans.
Et ça, c'est seulement les personnes à qui j'ai pu parler, qu'on connaît. Donc c'est impressionnant, parce que quand on a joué à Paris, là, c'était cet hiver, décembre 2018, il y a des gens qui sont venus d'Allemagne et de Lille, on ne savait pas. Ils sont venus nous parler à la fin du concert, ça fout les frissons, ça fait bizarre. C'était très impressionnant.
Ah ouais, en fait, ils viennent de toute la France, en fait.
Ouais. En fait, ce qui était impressionnant, c'était de voir des jeunes qui étaient venus avec leurs parents et qui avaient traîné leurs parents. Viens, tu m'emmènes. Et c'est génial. Du coup, les rencontrer en vrai, alors là, c'est. pour nous, tout se réalise. If I breathe tonight, if I am sad tonight, I don't have a job to
find. And if I were tonight, if I'm... Vous êtes sur Radio Pulse à l'écoute de l'interview de OnLab que j'ai réalisée le samedi 19 octobre à Nantes. Vous avez fait une musique qui s'appelle Still Alive. Ouais. Comment vous est venu l'idée de mélanger anglais-français?
c'est vrai que c'est pas la plus récente non plus. De mémoire, je crois que c'était l'occasion de faire. C'est l'occasion de faire un premier feat avec une chanteuse.
Ouais, avec Charline d'ailleurs, voilà. qui a emménagé dans cette jolie ville qui est Nantes.
Voilà.
C'est marrant. Je sais pas comment l'idée elle est venue.
Parce qu'elle chante en français surtout. Et que
ouais, voilà. Et puis que Flo a eu un contact avec elle, je crois, ou il est allé la chercher, je sais pas. Ça lui a plu ce qu'elle faisait et on lui a proposé. Elle a dit pourquoi pas. Et puis ça s'est fait naturellement en fait. Ouais. On n'a pas trop réfléchi à pourquoi, du comment, de l'impact. On avait envie de le faire, on l'a fait.
C'est que effectivement, là, on chante beaucoup. Enfin, on chante exclusivement en anglais et que elle faisait beaucoup de trucs en français. Ouais. Donc voilà, on s'est dit que ça pouvait être sympa de. Mélanger les deux, enfin qu'elle reste sur ce qu'elle fait d'habitude et que nous aussi. Et puis je crois
sortir
que c'est.
Sortir de notre zone de confort.
Voilà, et puis en plus, je crois que c'était l'époque de. Je sais plus comment s'appelait cette chanson, et pareil, c'était un peu à l'époque un peu la mode aussi de.
C'est Simple Plan.
Ouais, un truc comme ça, et je pense y a peut-être un truc qui s'est fait comme ça.
Ouais. Je crois surtout que c'est que Guillaume voulait pas chanter en français.
Ouais.
Et elle, je pense qu'elle était bien en français et pas en anglais, donc on a fait un petit mix des deux et c'était bien pour tout le monde.
Ouais.
Ouais, et c'était aussi la période de Lady Antebellum où il y avait du coup un mec et une nana qui chantaient.
Ah bon.
Ouais.
Voilà. Ouais. Bon, donc voilà, donc ça s'est mélangé comme ça. On a dit ouais, bon, ça se fait, ça passe bien, et bon, bah voilà. On
et c'est
ça.
Un titre qui a été joué, rejoué, réenregistré. Enfin voilà, c'est un peu derrière nous tout ça.
Ouais.
Vous envisagez d'autres featuring ou pas?
On envisage, on les envisage. On peut rien dire de plus pour le moment, je pense.
Ouais.
Voilà. Ouais, on a des idées,
c'est
on
pas,
a des pistes.
C'est pas impossible, ouais.
Voilà, mais. C'est quelque chose qu'on aimerait bien faire.
Il y a des envies de featuring, voilà. Avec du groupe, avec d'autres groupes ou d'autres chanteurs qui viennent d'autres horizons. Mais pour l'instant, c'est à l'état de projet.
Voilà.
Donc ça serait pas impossible qu'il y ait un featuring qui sorte bientôt, mais on peut rien garantir quant au rendu futur.
Voilà, ni
sûrement,
quand
ça va arriver, sûrement.
Voilà.
Ça reste la surprise.
C'est ça, ça reste la surprise pour l'instant.
Vous avez sorti un nouveau single le 15 mai. Qui se nomme Miracle. Du coup, vous pouvez en dire plus sur ce single?
Ah, c'était un enjeu. C'était un enjeu quand même, parce que en fait, c'était une chanson où on s'est dit on veut mettre un peu de moyens aussi là-dessus. On a enregistré aussi avec un autre producteur. Et puis on s'est dit voilà, on voulait aussi faire un clip un peu plus sympa, etc. Donc ça a été vraiment une chanson où on s'est beaucoup investi. Et on a dit il y a pas mal d'enjeux aussi, que ce soit musicaux, enfin en termes de prod, en termes de voilà, même de clips, etc. Et du coup, en fait, quand elle est sortie, ça a été quand même une petite fierté qui est sortie, parce que le rendu était vraiment, vraiment même au-dessus de nos attentes, donc on était vraiment contents. Et je pense que ça a été, moi je l'ai vécu aussi un peu aussi comme un tournant du groupe, parce que à partir de ce moment-là, c'est le moment où Miracle a commencé à sortir dans des playlists de métal français, etc. Et que du coup, ça nous ouvre des portes qu'on n'avait pas avant. Donc je pense que ça a été un point d'accroche qui s'est fait à ce moment-là.
Et puis c'était aussi l'occasion de faire un projet vraiment tous ensemble avec tous les acteurs qui gravitent autour d'Unlap. Donc je pense à Romain qui nous a produit ce titre, je pense à Matt qui a fait le clip avec toute son équipe. Enfin voilà, c'est des gens qui nous suivent et avec qui on travaille depuis un petit bout de temps maintenant.
Parenthèse, Matt qui est aussi la personne qui a réalisé le clip, c'est la personne qui était chargée aussi de suivre Mylène Farmer sur sa dernière tournée de 4 dates. Donc c'est lui qui nous a fait le clip.
Et du coup, ce single, il signifie quelque chose en particulier niveau sujet?
Non, après c'est plus
un petit message derrière.
Ouais, il y a un petit message.
C'est du bon sens, on va dire que c'est
voilà,
du bon sens.
C'est du bon sens, on va dire que c'est une sensibilisation. En fait, je pense qu'on est tous aussi dans une génération qui commence à se sensibiliser sur pas mal d'enjeux, que ce soit même des enjeux écologiques ou quoi que ce soit. C'était l'époque un peu gilet jaune aussi. Donc voilà, on voyait qu'il y avait de plus en plus de personnes qui étaient sensibles à plusieurs causes et plusieurs choses. Et voilà, il y avait un petit côté, on a envie de faire passer un petit message justement que les gens se sentent investis de plein de causes et que...
Même, je pense que ça parle à une bonne partie de notre public. On voit souvent... ces derniers temps les manifestations de lycéennes pour le climat, voilà, et c'est quand même une partie importante de gens qui nous écoutent, ces lycéens, ces jeunes, et du coup je pense que voilà, il n'y a pas un message précis, on n'est pas des écolos, on n'est pas engagé, mais c'est quelque chose qui nous parle et je pense que ça parle à beaucoup de gens qui nous écoutent, donc voilà, un message.
En septembre, vous avez sorti un cover de Linkin Park.
Oui.
Ouais.
D'où vous est venue l'idée d'un cover tout d'abord?
Alors, ça faisait très 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 longtemps, moi, que je voulais, faire un cover.
Déjà, ça faisait longtemps et on était tous fans de Linkin Park. Et puis, quand on a appris aussi le décès du chanteur, on s'est dit ça serait aussi l'occasion de faire un petit hommage, un truc comme ça. Et donc, ça nous trottait dans la tête. Donc, bon, du coup, c'est sorti quand même presque 2 ans après sa mort. Mais du coup, on voulait vraiment faire quelque chose en lien avec ça. Et parce que aussi, Linkin Park, ça nous a tous suivi un petit peu quand on était ados, voilà, ça nous a suivi un peu partout. Donc en fait, ça s'est un peu imposé tout seul. Et c'était aussi l'occasion de faire un petit hommage également. Donc voilà, ça s'est fait vraiment naturellement, pour le coup.
Et pourquoi cette chanson?
parce que c'est Linkin Park en fait, voilà.
Non, ouais, cette chanson, que... j'ai envie de dire, on aurait pu prendre la laquelle. Franchement, ça aurait rien changé.
C'est sur le coup du feeling en fait. C'était, ouais, voilà,
je pense qu'elle nous parle peut-être un petit peu plus parce que elle est pas toute jeune ouais. Et nous non plus. On commence à.
Parle pour toi.
Voilà, je trouve que c'est un bon choix de chanson et. Ouais. Et franchement, moi, je suis super fier d'avoir sorti cette chanson. C'était, j'avais très peur.
Ouais. On avait peur. Surtout qu'on avait peur parce que les covers, surtout sur des chansons, enfin des artistes comme ça, qui pour nous sont un peu intouchables. On se dit, on peut pas se permettre de la foirer, on peut pas se permettre de faire un truc de merde parce que. La pression, ça mettait tout seul parce que il y en a des milliards qui font des covers sur Linkin Park, etc. Mais nous, on avait vraiment envie de pas dénaturer le truc et on voulait pas passer pour des mecs qui profitent. Ouais, Linkin Park, c'est connu, alors ils ont fait une cover Linkin Park. Non, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur et on voulait bien le faire. Quoi.
On voulait pas non plus faire une copie de la chanson, donc on a fait une petite adaptation, mais on voulait pas la dénaturer.
Voilà, c'est ça.
On voulait que ça plaise à notre public pour pas le décevoir. Et donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'enjeux. Et avant de voir les premiers commentaires sur YouTube, parce que c'est là où quand même on récolte pas mal d'avis de personnes, on était pas bien. Et quand on a vu qu'il y avait autant de likes et si peu de dislikes sur la vidéo, on s'est dit bon, ça a l'air de leur plaire, on s'est pas foiré.
Surtout, le concept était un petit peu osé.
Il y a un concept autour de cette cover.
Il y a surtout le concept parce que, en fait, étant donné que toute notre communauté vient essentiellement de YouTube, etc., on est dans 2-3 niches qui sont la muscu, les vidéos de muscu. Bon, voilà. Mais c'est cool parce que les communautés sont quand même bienveillantes. Et il y a une autre communauté qui est la communauté tout ce qui est manga et animé. Et du coup, les AMV en fait. Et on connaissait pas ce que c'est. Enfin, on savait pas ce que c'était les AMV. Mais voilà, en fait, il y a eu plein de notre chanson était utilisée dans pas mal d'AMV, etc. Et au final, on s'est dit, pourquoi pas sortir le projet directement en collaboration avec un mec qui fait des AMV. Et pour le coup, ça a été un peu le clip officiel. Enfin, c'était le concept. Voilà, c'est pas vraiment le clip officiel, mais c'est la vidéo officielle. Voilà, effectivement. Mais du coup, ça s'est jamais vu, ça s'est jamais fait. Donc effectivement, ça rajoutait aussi une petite pression, quoi. C'était sympa et ça a été super bien accueilli. Donc du coup, on est super content, quoi.
C'est qu'il y a un double enjeu, donc double pression.
C'est ça.
Et pareil, le clip, on l'a fait avec quelqu'un avec qui on travaille depuis au moins 3 ans, et qu'on s'était rencontré à Japan Expo en 2018, ouais. Si je dis pas de bêtises. 2017 peut-être, ouais. Ouais, c'est quand on avait fait
2017,
le vlog.
Ouais.
Et donc on est content de travailler encore avec ces gens-là. Généralement, on préfère garder les mêmes contacts, travailler avec eux et s'inscrire dans la durée plutôt que de faire ça en one shot. Donc double enjeu pour Numb. Et on a l'impression que c'est une double réussite. En tout cas, c'est les retours qu'on en a. On s'est pas planté. On a fait un truc
et bien serré les fesses.
Fait de l'huile.
On va se faire démonter. Finalement, ça va.
Du coup, la pression est vite redescendue une fois vu les commentaires.
Ouais, les commentaires.
En parlant de commentaires, à l'annonce du cover, il y a eu un commentaire qui dit que Linkin Park français et on vous identifie beaucoup à eux. Du coup, vous ressentez quoi par rapport à ça?
Vas-y, Faust, si tu veux dire un mot.
Moi j'ai pleuré. Après c'est vrai que notamment ces commentaires là, c'est vrai qu'on a tendance à commencer à on commence à reconnaître ces fans là parce que Franck et moi, surtout Franck, leur parle vraiment tous les jours sur Instagram et sur les réseaux sociaux, et c'est vrai c'est pas la première fois que certains disaient ça, et nous c'est incroyable en fait, on n'y croit même pas quoi. C'est-à-dire qu'on prend le commentaire, on est hyper heureux, et en même temps on n'arrive pas vraiment à réaliser quoi. Ce que ça veut dire, on est juste très heureux de le lire et ça nous fait hyper plaisir. Mais nous, on se compare pas du tout ni à Linkin Park ni à d'autres d'ailleurs. Mais le fait que certains le pensent, c'est juste incroyable, et jamais dans nos vies avant on aurait pu.
C'est on se dit que c'est qu'ils veulent nous flatter, mais ils le pensent pas.
On se dit voilà. Et puis voilà, après on leur parle en concert aussi, la plupart. Et on l'entend de vive voix, et je pense qu'on réalise jamais vraiment, mais ça fait juste hyper plaisir. Et puis certains peuvent aimer notre musique autant, c'est fou quoi. Franchement, c'est fou. Expecting of me.
put under the pressure of walking in your shoes.
Vous avez d'autres dates de prévues de concerts en fin d'année ou pas?
C'est possible. Même réponse que tout à l'heure, c'est pas impossible.
En fin d'année?
Non, en fin d'année.
En fin d'année,
non,
en fin d'année, non, d'année, pas de fin d'année. Il n'y en aura pas.
Plutôt 2020.
Ouais. Ouais, voilà. On est en train d'en parler, mais c'est vrai que du coup, comme on avait pas mal de projets de. Alors des tournages, des projets, comme on fait pas mal de trucs sur YouTube avec des youtubeurs ou d'autres projets, même des vlogs, des trucs, ça nous prend le temps qu'on a ensemble qui est un peu compté parce que on a un membre qui est dans le sud maintenant, un autre qui est ici à Nantes, et on est tous les trois après avec Andrea et Pierre à Paris. Donc du coup, quand on se voit, c'est soit pour une répète, soit pour des projets ou des tournages, et du coup, les concerts, bah, ils sont plutôt rares. C'est sûr qu'il y en aura un autre à Paris, un gros truc. En avril 2020, mais on l'a pas encore vraiment annoncé, mais ce sera le prochain gros rendez-vous probablement en concert.
Et du coup, vous sortez que des EP, vous envisagez un album ou pas?
Alors, pour l'instant, nous on est vraiment, en plus, on a sorti plusieurs EP, mais on est même passé depuis quelques temps vraiment à un modèle single. C'est-à-dire tous les 3 mois, on sort un single. Comme ça, ça nous permet de bien le préparer, ça nous permet de... Enfin, on aime bien fonctionner comme ça. Puis on a remarqué qu'en fait, ça le mettait plus en valeur que si c'est un EP, puisqu'on a eu l'expérience des deux, donc on peut comparer. Et comme ça, au moins, quand on sort quelque chose, bah, on a des retours sur ce truc-là et pas sur autre chose, et on sait de quoi on parle, si ça a plu, pas plu, ce qu'on a bien fait. On prépare une vidéo par chanson, vraiment sur un thème. Ça permet de vraiment préparer chaque chanson comme un projet à part entière, et pas de faire un peu plusieurs choses en même temps. Parce que c'est vrai, quand on sort un EP et encore pire un album, globalement il y a un ou deux singles qui ressortent et le reste ça a tendance à être du coup un peu passé à la trappe alors que ça demandait le même travail. Donc nous on est passé sur un modèle comme ça qui est suivi maintenant par pas mal de monde en indépendant en tout cas, parce que le modèle major et pro est toujours sur des modèles albums. Mais nous on aime bien rester comme ça, je pense que rien n'est fermé pour nous, on pourra ressortir un EP un jour. Un album je pense pas avant un certain temps parce que ça fait une période d'absence pour le sortir et pour le préparer, que nous on n'aime pas trop, nous on aime bien être là tout le temps, périodiquement, et ça fait de l'actu, et je pense que les gens qui nous suivent, ils préfèrent avoir une chanson plus souvent, plutôt que d'attendre 3 ans, ou de, voilà, et d'avoir un album, donc ça nous convient bien comme modèle pour l'instant. Ouais.
Pour 2020, à part les concerts, il y a des projets, il y a des idées de projets ou des projets en cours?
Ouais, justement, c'est pour ça que du coup sur les concerts, on va essayer de faire autant que possible, mais en même temps que ce soit des trucs sympas et qui nous fassent plaisir. Et puis le reste du temps est consacré, ouais, à des projets. Déjà qu'on arrive à se voir pas mal en répète, c'est un bon objectif parce que c'est sympa et puis ça permet de bien se recentrer sur les chansons et de discuter de plein de trucs. Et après, on a les tournages de clips, parce que du coup, comme on sort un single et que maintenant on va rentrer sur vraiment un modèle où on veut sortir à chaque fois un projet entier et pas juste forcément, enfin pas que une X vidéo à chaque fois, vraiment sortir une vidéo originale à chaque fois. Donc les tournages ça prend du temps, ça se prépare. Et ensuite des projets avec des youtubeurs ou des projets même plus larges qui vont aussi prendre du temps. Donc les concerts et tout ça, ce sera un juste milieu. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues, ouais. Et
il y aura
qui
des
vont
chansons
nous
prévues
occuper,
en tout cas.
Ouais.
C'est ça, c'est ça.
On peut dire qu'il y aura un concert au printemps 2020 à Paris.
Ouais, c'est ça.
Ça voilà. C'est quasi sûr.
Ouais.
Ça sera annoncé quand ce sera certain et définitif. Et il y a 2-3 chansons en préparation.
Ouais.
Ouais, après, ouais.
Qui sont pas écoutables du tout, bien sûr, sinon ils sortiraient. Mais il y a deux trois titres en préparation en show,
voilà.
Qui sont en train de maturer et qui sortiront quand elles seront prêtes.
Voilà, donc il y aura une chanson qui va sortir probablement début janvier. Avec il y a de bonnes chances que ce soit un featuring avec un groupe américain. Donc voilà, c'est quelque chose qui est encore en train de se travailler.
Ouais, on a pas lâché l'info. On a pas lâché l'info.
On a dit que c'est possible.
Ça dénoue tout, mais
un groupe. un groupe américain. Comme il y a genre 500 000 groupes américains. Ça reste bien vague, je pense qu'il n'y a pas trop moyen de trouver.
Et bah, c'est pas par Ouch.
Non, et puis celle sur laquelle on est en train de travailler et qu'on va tourner en novembre, le clip là, bientôt, ce sera celle qui sortira vers mars ou avril 2020. Donc là, pour le coup, qui est encore plus à l'état de projet, mais on va déjà tourner là parce que ça se prépare à l'avance. Et on va commencer à discuter de loin et très doucement de ce qu'on fera pour l'été 2020 bientôt. Donc quel projet de vidéo, de clip et de chansons. Et puis il y a au moins un ou deux gros projets avec des youtubeurs qui sont dans les tuyaux, mais vraiment à l'état de projet. Donc il n'y a pas de date, il n'y a pas d'infos, mais ce sera des trucs qui vont sortir en 2020 ou 2021, sur lesquels on commence déjà à réfléchir.
Quelques festivals en été 2020.
C'est ça, il y a au moins un festival fin juillet sur lequel on a été normalement confirmé, mais pareil, on l'annoncera un peu plus tard parce qu'ils n'ont pas commencé eux-mêmes la com, donc on va pas les court-circuiter. Mais ce sera un festival fin juillet, pas loin d'ici d'ailleurs, pas loin d'ici, de Nantes. Et du coup, ça c'est confirmé. Je pense qu'on fera une autre date en province au dernier trimestre ou avant-dernier trimestre 2020, qui sera probablement... Enfin, on bosse sur Strasbourg depuis un moment, donc ça peut être Strasbourg. Mais en même temps, on a d'autres villes... voilà, on n'est pas encore sûr.
Il y a Lyon, il y a Bordeaux, il y a plein d'endroits. Ouais.
C'est vrai que souvent, on nous demande « quand est-ce que vous passez à Lyon ?»« Quand est-ce que vous passez à Lille ?»« Quand est-ce que vous passez... » Enfin voilà, c'est un peu...
« À Milan, quand est-ce que vous passez
ouais, voilà. Ah, quand est-ce que vous passez au Brésil aussi ?»
Il va falloir faire une tournée européenne.
Ouais, voilà.
Bah, on va commencer par la France déjà. Et puis Strasbourg, ce qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de... L'Allemagne, c'est notre troisième pays qui nous écoute le plus au monde. Donc Strasbourg étant une ville plus ou moins proche de l'Allemagne, c'était un moyen aussi d'avoir des Allemands qui peuvent venir. Donc c'est pour ça que c'était une date qui nous... Enfin, c'était un lieu qui nous plaisait bien. Mais de toute façon, on les fera toutes, hein, mais après, c'est l'ordre qui va changer, quoi. Voilà,
dans
un petit peu.
Le classement du pays qui écoute le plus, la France, elle en est où?
La France est de mémoire 5e avec le Brésil en 4, l'Allemagne en 3, les USA en premier. Et en deuxième, j'ai un doute. En deuxième, j'ai un doute sur... J'ai dit l'Allemagne.
Ouais, je crois que l'Allemagne c'est deuxième, non?
L'Allemagne c'est peut-être deuxième, ouais. Il y a le Brésil, les États-Unis, la France.
États-Unis, ouais. Allemagne, Italie.
Ah oui,
ah, Italie,
je sais pas. Ouais.
France, et après c'est Angleterre. Mais Angleterre, ils vont dépasser bientôt, je sens. La France.
Et le Brésil, pas loin du tout derrière, parce qu'on a fait un projet commun avec un youtubeur brésilien il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Junior Silveira. Et il est très connu là-bas, et du coup, ça nous a apporté une bonne visibilité là-bas, donc le Brésil juste derrière. Mais ça fait un peu loin pour l'instant, mais pourquoi pas. Mais voilà, quoi.
À l'instant, c'était l'interview de OnLap. Vous pouvez les retrouver tout de suite en podcast sur le www.radiopulse.fr.